le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va partir dans l'Est et parler un petit peu de l'Ukraine. Vous savez évidemment qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, et malheureusement, les personnes âgées sont, depuis le début de l'invasion russe, les premières victimes du conflit. Souvent, elles sont dans l'incapacité de partir à cause de l'isolement, de handicap, le manque de moyens, la dépendance aussi, et elles se retrouvent piégées dans des conditions de vie délétères et exposées au bombardement. C'est pourquoi Amnesty International appelle aujourd'hui la communauté internationale à se mobiliser pour leur apporter du soutien. Vous le savez peut-être pas, mais la population ukrainienne, c'est l'une des populations les plus âgées au monde. Il y a un quart des personnes qui vivent en Ukraine qui ont plus de 60 ans. C'est une réalité démographique qui n'est pas anecdotique. Depuis le début de l'invasion russe, ce sont donc les personnes âgées qui sont exposées de manière disproportionnée aux attaques. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui recueille des données sur les victimes civiles en Ukraine, les personnes de plus de 60 ans représentaient 34% des civils tués entre février et septembre 2022. Dans les cas où l'âge a été effectivement enregistré seulement. D'après Help Age International, qui est un réseau mondial d'organisations qui promeut le droit de toutes les personnes âgées à mener une vie digne, saine et sûre. Donc selon eux, la proportion de personnes âgées touchées par la guerre en Ukraine est plus élevée que celle de tout autre conflit en cours. Et effectivement, on peut se poser les questions, comment est-ce qu'on fuit quand on est dépendant? Comment est-ce qu'on trouve un refuge dans un abri souterrain quand on se déplace en fauteuil roulant? Comment est-ce qu'on récupère sa pension pour s'assurer de quoi survivre quand tout s'écroule autour de vous? On a donc sorti un nouveau rapport qui s'appelle « I used to have a home, older people's experience of work, displacement and access to housing in Ukraine ». Donc en français, j'avais l'habitude d'avoir un foyer, l'expérience de la guerre des personnes âgées, déplacement et accès au logement en Ukraine. Ce rapport, il met en lumière l'impact dramatique de l'invasion russe sur les personnes âgées en Ukraine et il nous rappelle une fois de plus la place particulièrement exposée des personnes âgées dans les situations de crise. Alors pour ce rapport, comment est-ce qu'on a enquêté ? Faut savoir que depuis le début du conflit, Amnesty International recueille des informations sur les crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire commis pendant la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. Pour ce rapport, nos chercheurs et nos chercheuses se sont entretenus avec 226 personnes. Les recherches ont été menées entre mars et octobre 2022 et ça inclut également un voyage de 4 semaines en Ukraine en juin et en juillet 2022. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu des conditions de vie qui sont assez dramatiques, par choix ou parce qu'elles étaient dans l'impossibilité de fuir à cause, encore une fois, handicap, dépendance, isolement, etc. Il y a de nombreuses personnes âgées qui sont restées chez elles dans des conditions de vie qui sont très difficiles. Elles vivent dans des logements qui sont sans électricité, pas de gaz, pas d'eau courante. Parfois, les fenêtres ou le toit sont endommagés et ça les protège même plus de la pluie, de la neige et du froid. Et à cette période de l'année, c'est très très difficile. On a Nina, 70 ans, qui est restée seule dans son appartement avec des fenêtres cassées en plein hiver, qui témoigne, je cite, « J'étais terrifiée à l'idée que mes jambes gèlent. Je me suis assise dans ce que je pensais être le coin le plus sûr de la cuisine en cas d'onde de choc et j'ai apporté toute la literie et les oreillers que j'avais dans la maison. Et je suis restée assise là pendant 10 jours. Tout ce que j'avais, c'était une petite torche. Je lui ai parlé, j'ai mis une couverture sur ma tête et j'ai allumé la torche en dessous et je l'ai suppliée de ne pas s'éteindre. » On a aussi Anna Selivon, qui a 76 ans, qui vit à Tchernihiv et qui dort sur un matelas placé par des bénévoles dans sa baignoire parce que sa salle de bain est la seule pièce qui a encore un plafond. Elle nous dit « Tout le monde dans notre rue est parti. Les seuls qui restaient, c'était deux autres femmes âgées et moi. L'une d'elles était handicapée. Nous n'avions nulle part où aller. Je me cachais dans un trou de ma cave. Le 29 mars, des bombardements intensifs ont eu lieu. Et quand je suis sortie de la cave, j'ai vu des flammes voler et ma maison brûler. Mes jambes ne bougeaient plus. » Tout ça, c'est des conditions qui sont très difficiles, ça reste évidemment des conditions de guerre, mais pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus difficile. Elles souffrent plus fréquemment, par exemple, de problèmes de santé, et elles sont donc particulièrement vulnérables. Dans les zones occupées notamment, les forces russes restreignent sévèrement l'accès à l'aide humanitaire, en violation flagrante du droit international, et résultat, les restrictions d'accès de l'aide humanitaire, le manque de moyens médicaux et l'isolement, bah ça entraîne d'importantes difficultés pour les personnes âgées, et ça met évidemment leur vie en péril. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme traités internationaux qui sont relatifs aux droits des personnes âgées réellement? Et bien à l'heure actuelle, en fait, il n'existe aucun traité mondial sur les droits des personnes âgées. Les conclusions de notre rapport, elles montrent clairement que les personnes âgées présentent des vulnérabilités croisées qui, ensemble, les exposent à des risques accrus de crise. À l'heure qu'il est, les droits des personnes âgées sont protégés par un ensemble disparate de traités internationaux de portée universelle ou qui concernent d'autres groupes. La communauté internationale devrait donc œuvrer à l'élaboration d'une convention spécifique aux droits des personnes âgées afin de sauvegarder leurs droits, à l'instar par exemple des droits de l'enfance. Les personnes âgées ont aussi des difficultés pour se reloger. Parmi les personnes âgées qui ont perdu leur logement ou ont été déplacées par le conflit, elles sont très nombreuses à avoir eu du mal à trouver un logement convenable à nouveau. Et le problème, c'est que les retraites sont bien souvent très très inférieures au minimum vital et au prix des loyers qui a considérablement augmenté. Résultat, beaucoup risquent de ne plus avoir accès du tout à un logement. Quant aux abris, ils sont en grande partie physiquement inaccessibles aux personnes âgées qui sont handicapées. En conséquence, des milliers de personnes âgées n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers une institution publique. Rien qu'entre février et juillet 2022, il y a au moins 4000 personnes âgées qui ont été placées dans ces institutions après avoir perdu leur logement du fait du conflit, selon les déclarations publiques du ministère ukrainien de la politique sociale. On a par exemple Ola Volkova qui gère un foyer pour personnes âgées déplacées souffrant de handicap à Dnipr, désolé pour la prononciation. Elle déclare, je cite, « Environ 60% d'entre elles sont envoyées dans des institutions. Elles ne peuvent pas se permettre de payer un loyer, ni l'eau, ni l'électricité, ni à manger. Nous devons donc les envoyer dans les maisons de retraite. » Alors, ce qu'il faut retenir de ce rapport et qui est très important de garder à l'esprit, c'est tout d'abord que les personnes de plus de 60 ans représentent bien 34% des civils tués entre février et septembre 2022 dans les cas où l'âge a été enregistré. Les personnes âgées logent souvent dans des habitations qui sont peu sûres et lorsqu'elles peuvent fuir, elles se retrouvent dans l'incapacité de couvrir les frais de location. Elles se tournent donc vers des refuges qui n'ont pas du tout les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins, en particulier si elles sont handicapées. C'est la raison pour laquelle on appelle les gouvernements étrangers et les organisations internationales à renforcer le soutien aux personnes âgées en Ukraine, voire à essayer de mettre en place des traités internationaux qui protègent spécifiquement cette population des personnes âgées, à l'instar des droits de l'enfance. Si vous vous êtes intéressé par ce problème, vous pouvez essayer de nous aider à travers des pétitions qui sont sur notre site amnestyinternational.fr. Yeah.
świat zeliny roznosza. Wydawajcie się dziewczata, jak was chłopci prosiad. Wydawajcie się dziewczata, jak was chłopci.
On vient d'écouter un titre qui s'appelle Stéphane, qui là est performé par le groupe Archza. C'est un groupe slovaque. C'est une chanson populaire des pays de l'Est qui est reprise dans beaucoup de pays comme la Russie, l'Ukraine et la Slovaquie. Et justement, je vais vous parler maintenant de la Russie. Et pour finir l'année, on va parler d'une bonne nouvelle. Au-delà de la guerre, il y a récemment une artiste russe qui s'appelle Lulia Tsvetkova qui a été définitivement acquittée. C'est une artiste qui risquait 6 ans de prison pour des dessins qui ont été publiés sur les réseaux sociaux. Et ces dessins, en fait, ils représentaient des corps de femmes et des vulves, des corps de femmes nues. Et grâce à une large mobilisation, cette artiste russe de 29 ans a donc été acquittée. Sa mère a déclaré à Amnesty International, je cite, « L'acquittement de Lulia est une immense victoire que je veux crier sur tous les toits. » C'est elle qui a annoncé à Amnesty International la bonne nouvelle le 22 novembre dernier. Elle a fait le déplacement de l'extrême-orient russe depuis sa ville de Komsomolsk sur l'Amour, désolé pour la prononciation. Elle est allée jusqu'à Marseille où se tenait un vernissage qui exposait les œuvres de sa fille justement. Des militantes et des militants qui se sont mobilisés depuis plus de 2 ans pour Lulia se sont réunis autour d'elle pour célébrer cette bonne nouvelle. Elle nous dit également, je cite, « Je veux vous remercier pour tout le soutien apporté, pour toutes les lettres écrites, pour nous protéger, ma fille et moi. » Si vous voulez entendre la déclaration complète de la mère de Lulia, elle est disponible sur notre site amnestyinternational.fr. Et cette déclaration montre bien que les actions du type de soutien, d'envoyer des lettres de soutien aux prisonniers d'opinion, aux prisonnières d'opinion et à leurs proches, ça aide énormément à garder le moral et donc à avoir toujours la motivation de continuer à se battre pour les droits de ses proches, les droits humains en général. Alors l'histoire de Lulia, en fait, elle était accusée de diffusion de matériel pornographique. C'est un crime qui est passible de 6 ans de prison en Russie. Et pourquoi est-ce qu'elle était accusée de ça? Tout simplement parce que elle avait posté sur des réseaux sociaux des dessins qui représentaient des corps de femmes tels qu'ils sont réellement, on va dire. À l'origine du procès de Lulia, c'est donc des dessins de femmes, de vulves, que l'artiste a regroupé et diffusé sur sa page qui s'appelle « Les monologues du vagin », titre d'ailleurs qui a été repris de la pièce de théâtre d'Eve Ensler. Et sur cette page, eh ben, on pouvait voir des œuvres de Lulia et aussi celles d'autres artistes. Toutes elles montraient diverses représentations abstraites de vulves dessinées, brodées, sculptées, etc. Et pour les autorités russes, ces vulves multicolores, eh ben, elles étaient considérées comme des représentations pornographiques. Alors que finalement, ces dessins, bon, ils sont assez enfantins presque. On a voilà, des dessins de femmes avec des petites explications, des petites remarques. Par exemple, une femme a des poils et c'est normal. Une femme a ses règles et c'est normal. Une femme n'a pas la peau parfaite et c'est normal. Et à chaque fois, un petit dessin qui accompagne cette déclaration et qui montre effectivement une femme toujours en dessin, qui n'ont pas du tout de caractère sexuel et qui montrent cette réalité-là. Il y a également, comme je le disais, plein d'autres artistes qui ont participé à ça et qui montrent d'autres formes d'art, la sculpture, la peinture, etc. Et qui essayent de représenter des vulves sous plein d'angles différents, qui ne sont pas forcément très très réalistes d'ailleurs, hein, c'est pas du tout à caractère sexuel encore une fois. La décision là du tribunal de confirmer l'acquittement de Lulia, elle est d'autant plus réjouissante parce que c'est vraiment un exemple très rare de justice dans la Russie actuelle. C'est ce que souligne Natalia Svijina, la directrice d'Amnesty International russe. Le climat en Russie, il est de plus en plus inquiétant, on le sait, à cause de cette guerre, mais aussi à cause de toutes les libertés qui sont de plus en plus réprimées en Russie. Les autorités continuent d'étouffer toutes les voix dissidentes, de museler les médias et de harceler notamment la communauté LGBTI+. Le 24 novembre 2022, les députés russes ont approuvé une loi qui durcissait l'interdiction de la propagande LGBTI+. C'est un texte qui conduira inévitablement à une augmentation des violences et des crimes de haine contre ces personnes. L'acquittement de Lulia est donc une victoire d'autant plus importante parce qu'elle survient dans un pays où l'étau ne cesse de se resserrer contre la liberté d'expression. Cette victoire montre l'importance et la force de la mobilisation, votre mobilisation à tous et à toutes. Et cette victoire en amènera d'autres, on l'espère, parce qu'avec vous, on continue d'agir et de se mobiliser pour les personnes dont les droits sont bafoués. Et notamment en ce moment, une artiste russe a été jetée en prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Il s'agit de Alexandra Skochilenko. Elle a été emprisonnée en Russie après avoir critiqué la guerre en Ukraine. Lulia et Alexandra sont de la même génération, du même pays, elles partagent la même passion pour l'art, elles connaissent la même parodie de justice des autorités russes, et donc, comme Lulia, on essaye de se mobiliser pour Alexandra Skochilenko et obtenir sa libération. Et si vous voulez participer à ça, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr et signer les pétitions ou alors envoyer des lettres de soutien, parce qu'encore une fois, ça a énormément d'importance dans le combat des personnes qui sont sur place, pour leur donner plus de courage, plus de motivation à aller toujours plus loin et à continuer de se mobiliser sur place. Parce que nous, on n'est pas sur place, on ne peut pas le faire. Mais on peut toujours soutenir ce genre de cause. On a sur notre site plein de petits textes qui sont déjà préfaits si vous n'avez pas beaucoup d'inspiration pour aller donner des messages de soutien. Mais vous pouvez aussi tout simplement envoyer des cartes. Là, c'est Noël en plus, donc c'est très facile de souhaiter ne serait-ce qu'un joyeux Noël et des joyeuses fêtes. Donc voilà, on va se quitter cette année sur cette bonne nouvelle et cette nouvelle mobilisation pour toujours les droits humains en Russie, mais partout ailleurs. Il y a plein d'autres pétitions à signer sur amnestyinternational.fr et ça peut être votre nouvelle résolution de l'année si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes, joyeux Noël et bonne année à l'année prochaine.
Ще дівчата, як вас хлопчик прощать. Вибивайте, ще дівчата, як вас хлопчик прощать.